appris en sciences physiques, et également de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, qu'on a vu auparavant en cours. Et j'utilise le fait que le jour de l'équinoxe, à midi solaire, en n'importe quel lieu sur la planète, eh bien, les rayons du soleil sont parallèles au plan de l'équateur, hein, uniquement sur ce moment précis de midi solaire. Donc, la manipulation à faire ce jour-là, pardon, je vais aller plus vite, c'est d'utiliser un gnomon ou un fil à plomb qu'on va mesurer le plus précisément possible et mesurer l'ombre à midi solaire. Alors, premier obstacle, bah, évidemment, il faut qu'il y ait du soleil à midi solaire le jour de l'équinoxe. Heureusement, on peut faire la mesure un ou deux jours avant jusqu'à un ou deux jours après. Cela donne de bons résultats. Enfin, jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à avoir un petit créneau pour le faire. Donc, la mesure avec le gnomon, moi, je la trouve un petit peu délicate parce qu'il y a l'épaisseur du gnomon au niveau du contour de l'ombre qui va jouer, qui va mettre une zone de pénombre. Donc, je préfère vraiment travailler avec un fil à plomb et pour avoir de la précision, je fais tout simplement deux nœuds sur le fil à plomb et je mesurerai l'ombre entre l'ombre des deux nœuds. Alors là, je vous montre un dispositif utilisé en classe, lorsque c'est possible, lorsque j'ai cours avec les élèves. Donc là, pour moi, c'est 13h11, si je ne me trompe pas, midi solaire. Si j'ai cours entre 13h et 14h, je le fais en classe. J'ai une salle, heureusement, située au soleil à cette heure-là. Et sinon, je demande aux élèves de réaliser la mesure à la maison. Alors, le genre de dispositif qu'ils peuvent utiliser, moi, je leur montre là sur une photo une chaise de jardin, un fil accroché au dossier de la chaise avec un trousseau de clés au bout du fil. Hein, c'est du matériel simple. Ils font les deux nœuds. Ils disposent d'une planchette où ils ont un sol bien horizontal à leur disposition sur laquelle ils vont pouvoir mesurer bien l'ombre du fil à plomb et en particulier donc la longueur entre l'ombre du premier nœud et l'ombre du deuxième nœud. Voilà. Donc, la mesure n'est pas très compliquée à faire. Par contre, le dispositif, ils ont un peu de mal à comprendre. Ils ont besoin qu'on leur ait montré en classe une fois. Et j'avoue que là, l'an dernier, on a dû le faire à distance et ça a été vraiment compliqué pour beaucoup d'élèves. Donc, je leur ai fourni les valeurs. Je leur fournis de toute façon les valeurs des mesures pour tous ceux qui ne peuvent pas réaliser la mesure. Pas de jardin, pas le temps, voilà. Il peut y avoir tout un tas d'obstacles ou juste un jour de pluie. Et je leur donne donc la mesure que moi j'ai faite avec la longueur du fil et la longueur de l'ombre. Alors, ce travail, j'en prie pour citer Madame Rapin qui travaille dans l'Académie de Nancy Metz, avec qui on avait mis au point cette activité il y a déjà quelques années. Donc, les élèves ont un travail à réaliser après à partir des mesures. Ils ont un schéma de la Terre. Le schéma présente bien que les rayons du Soleil sont parallèles au plan de l'équateur ce jour de l'équinoxe. Et il faut qu'ils retrouvent sur le schéma le fil à plomb, qui est bien sûr, qui a des dimensions là énormes, et l'ombre du fil à plomb. Ensuite, ils vont donc indiquer sur le schéma la longueur du fil, la longueur de l'ombre, indiquer où se trouve la latitude, repérer ici en rouge la verticale du lieu. Et il va falloir là qu'il soit un petit peu à l'aise en mathématiques pour retrouver que l'angle de la latitude se retrouve en fait dans le triangle rectangle au niveau de l'angle formé par le rayon du soleil et la longueur du fil. Donc à partir de là, la mesure de la latitude va être facile. Ils reproduisent un triangle soit exactement des mêmes dimensions, soit de mêmes proportions sur un papier. Et s'ils travaillent vraiment proprement, eh bien, la mesure de l'angle est assez bonne. Hein. La plupart des élèves qui travaillent précisément vont trouver un angle de 49 degrés pour une latitude de 49,11 degrés. Hein. Ils sont plutôt contents du résultat. Voilà. Alors, bien sûr, il faut qu'ils aient bien construit l'angle droit, bien respecté les longueurs des deux côtés du triangle. Alors, il m'arrive sinon de réaliser aussi une mesure de latitude en club astronomie, mais là, simplement, il faut travailler de nuit. Donc, ça m'oblige à convoquer les élèves en dehors des heures scolaires. Voilà, je le fais dans le cadre du club astronomie. Et on utilise un petit sextant de fabrication vraiment très simple avec un rapporteur, un fil à plomb, une paille pour viser. Et on vise l'étoile polaire, c'est une autre façon de retrouver la latitude. Voilà, les deux manip que je voulais vous présenter. Et dernière chose, je vous ai mis un lien là vers un site qui est très très riche, que j'ai présenté dans la conférence précédente. Voilà, frontiers-project.eu, qui est vraiment une source de documents pédagogiques très très riches. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. J'ai terminé.
Non, ça va, merci, merci. Bon, je n'ai pas vu passer de questions, je ne sais pas si Nicolas, toi, tu as vu passer, mais moi, j'en aurais une, c'est est-ce que vous avez eu des retours d'élèves qui auraient, sur leur lieu de vacances, par exemple, essayé, donc à une autre latitude, essayé de faire la mesure
Non, 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 j'ai
Non.
jamais eu ça. Non, ça ne s'est pas produit. Je dois dire qu'il y a une petite proportion des élèves qui est ravie de faire la mesure. Beaucoup trouvent ça un petit peu rébarbatif de devoir travailler à une heure précise, un jour précis, en dehors du temps scolaire.
Oui,
Bon. Mais ceux
peut-être
qui
aussi.
adhèrent, eux, sont contents du résultat et
Peut-être
apprécient
aussi
d'aller.
que le matériel, quelque part, peut être rebutant. Je sais que dans un autre atelier, celui sur les logiciels et les jeux, on avait pu mettre en évidence aussi le fait que dès qu'il y avait un peu d'informatique ou quelque chose de, voilà, ça faisait un peu plus sérieux que le jeu de plateau, par exemple. Simple. Donc, est-ce qu'il y a cet effet-là aussi, peut-être, qui pourrait intervenir?
J'ai pas compris le jeu de plateau, pourquoi jeu de
Non, non,
plateau?
non, mais l'idée, c'est simplement la différence entre
Ah
si,
oui, d'accord. Un
avoir
jeu,
simplement
d'accord.
un fil, et puis une masse au bout du fil. Et donc, prenez le similaire avec un jeu de cartes, et puis
Oui, je comprends.
un jeu vidéo.
Oui, non, là, ça peut sembler un petit peu aride à certains élèves qui ne s'intéressent pas particulièrement aux sciences. Voilà, alors moi je trouvais ça intéressant de faire une mesure vraiment liée à la planète Terre, à sa position en vrai, quoi.
Alors, moi j'ai une toute petite question. Vous avez présenté une méthode simple et astucieuse pour être sûr d'être bien à la verticale. Pour l'horizontalité de la surface de projection ou...
Alors, il y avait un niveau à bulle, je ne sais pas si c'est vu sur la photo. Je mets un niveau à bulles sur la planchette, là. Les bulles dessus.
Voilà. Sinon, il y a aussi une question de Noël Robichon qui est comment mesurer directement la base de triangulation.
J'ai pas entendu.
Je disais, il y a dans les questions sur le chat, il y a une question de Noël Robichon qui est comment mesurer directement la base de triangulation. Sûr de bien comprendre la question.
J'ai pas compris la question, la base de triangulation, c'est-à-dire.
Ben, je ne sais pas.
La base de triangulation, c'est la longueur de l'ombre.
Ah, c'est la longueur de l'ombre.
La longueur de
Dans ce
l'ombre,
cas-là,
comment je la mesure?
avec une règle, j'imagine.
Avec une règle, tout simplement, sur la planche ou sur la table quand je le fais en salle de classe. Alors, en salle de classe, moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets un papier sur la table. Je relève au crayon les positions de l'ombre, enfin les deux nœuds. Comme ça, c'est un relevé rapide et après, je peux entendre mesurer.
Augmenter un peu le son.
M'avez pas entendu?
Si, non, 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 c'était totalement autre chose.
D'accord.
Ne vous inquiétez pas. Ok, bon, bah, je pense qu'on va pouvoir passer à l'intervention suivante. Marthe Després avec l'astronomie au donjon de Houdan. Donc, en fait, il y en a une petite vidéo. Marthe, peut-être je vous laisse vous présenter d'abord et puis on passera à la petite vidéo ensuite, en quelques mots.
Oui, bonjour, excusez-moi, je vous suis, mais je suis en retard, j'ai eu des petits problèmes techniques, j'arrivais pas à me connecter. Alors, je me présente dans la vidéo. Alors, bonjour, je m'appelle Marthe Després, je suis animatrice du patrimoine au donjon de Houdan et je suis astronome amatrice depuis longtemps. Donc, je fais des animations astronomiques et là, je présente en fait une exposition que je vais faire en mai prochain, si tout va bien. Avec Emmanuel Rollin et justement dans le projet Astre, donc avec l'équipe d'Emmanuel Rollin sur un projet important qu'on va présenter au donjon de Houdan. Et voilà, donc je présente ça. Si ça ne vous dérange pas, monsieur Gilles Rémy, de lancer la vidéo, parce que j'ai peur de toucher à mon ordinateur là.
Je vois le faire.
Vous pouvez le faire à ma place. Merci beaucoup.
Ok. Il faut juste. Attendez. Hop, juste deux secondes.
Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marthe Després, je suis astronome amatrice en club depuis plus de 20 ans et je fais des animations astronomiques. Tu
peux monter le son, Gilles ?
Oui.
Je suis ici dans le cadre de mon travail, je suis à de la et je vais vous présenter une exposition que je vais mettre en place si tout va bien, dans le cadre du projet Astra.
On n'entend vraiment pas du tout Gilles en fait.
Est-ce que tu veux que je passe la vidéo,
oui,
Gilles?
Oui, ce serait mieux. Ouais.
Ok.
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Marthe Després, je suis astronome amatrice en club depuis plus de 20 ans et je fais des animations astronomiques auprès du public et auprès des écoles. Je suis ici dans le cadre de mon travail, je suis animatrice du patrimoine au donjon de Houdan et je vais vous présenter une exposition que je vais mettre en place de mai à et pendant tout l'été 2021, si tout va bien, dans le cadre du projet Astra, dirigé par Emmanuel Rolland et son équipe, avec la participation d'autres associations. Donc moi, je fais des animations astronomiques auprès des écoles. Donc là, par exemple, avec une classe de maternelle, je fais l'intervention en projection avec un solarscope et ma lunette. Ça permet d'observer de façon sécurisée. Hein. C'est aussi ça qui inquiète souvent les enseignants, c'est que ce soit dangereux, par exemple, d'observer le soleil. Donc là, il n'y a pas de souci avec une petite zone sécurisée avec du rubalise et l'intervention des enseignantes et des ADSEM, par exemple. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un travail que je fais en amont, que je prépare en amont avec les enseignantes. C'est important parce que j'ai remarqué que quand les enfants sont pas bien préparés à cette intervention, ça tourne vite à l'attraction plutôt qu'un vrai travail pédagogique. Donc, c'est important de préparer les élèves. On peut aussi, comme ici, observer, là, par exemple, une éclipse partielle de soleil, donc sur le net, hein, en étant en liaison avec d'autres observatoires. Donc, ça, c'est très bien aussi, c'est facile à mettre en place. Et les enfants sont contents de voir, de participer, parce que malheureusement, là, en l'occurrence, sur cette éclipse-là, l'inspection d'académie avait interdit aux enfants de sortir dans la cour, pendant l'éclipse. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dommage, parce que c'est quand même des événements qu'on ne voit pas souvent, et se couper de ce genre d'événements, c'est pas du tout une bonne idée. Alors, dans le cadre de mon travail au donjon de Houdan, qui est un espace culturel en plus d'être un monument historique à visiter, j'organise par exemple des conférences pour le grand public et pour les enfants également. Là, par exemple, une conférence sur les 50 ans, à l'occasion des 50 ans de l'alunissage. Aussi des observations là en bas du donjon, au pied du donjon, des observations du soleil avec des instruments où on peut regarder en projection et directement l'œil à l'oculaire, avec l'animation, donc des animateurs et des animatrices, un par instrument. Pareil pour l'observation sur la terrasse du donjon, un instrument, un animateur, une animatrice. Alors ce format-là est intéressant parce que très rapidement, on discute facilement avec le public et qui ose justement poser leurs questions. Donc c'est au cours de ces 20 ans d'expérience que j'ai réalisé en fait que la plupart du temps les gens ils ont un petit peu de mal à situer les choses, à mettre les choses dans l'ordre, les échelles, problème d'échelle, problème de temps.
ils ont du mal à se situer dans cet univers, en fait, parce que je pense que la connaissance en astronomie, elle n'est pas suffisante à l'école. Donc, il faudrait vraiment développer ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette exposition qui s'appelle « La place de l'humain dans l'espace et le temps ». Donc là, par exemple, on me voit dans mon scaphandre avec ma petite poule de Houdan sur les épaules. Là, c'est la salle Montfort où j'ai illustré le temps, justement, avec un calendrier de Carl Sagan. C'est assez efficace. Les visiteurs et les visiteurs sont en général surpris de voir qu'ils sont finalement là depuis très peu de temps. Dans la salle basse, j'ai décidé d'illustrer les échelles. Donc là, je commence par la plus petite échelle, donc c'est une étoile. Donc le soleil, là, ne se voit pas parce qu'il fait 4 mm en comparaison avec l'étoile la plus grande connue, donc représentée par un ballon qui fait 1,43 m de diamètre. Donc au fur et à mesure, on monte dans le donjon, on passe d'une échelle à une autre, on passe les constellations, l'ultra deep field, le Laniakea, et on termine par une projection dans la cuve de l'ancien château d'eau, où je reprends l'échelle la plus petite de la Lune et où on va jusqu'à l'hypothétique multivers. L'idée, c'est que les visiteurs et les visiteuses ont un peu le vertige et qu'ils réfléchissent un peu à leur place dans l'espace et le temps en tant qu'espèce, en tant qu'individu. Donc si ça peut apporter voilà, des questionnements et des réflexions un petit peu philosophiques aussi sur notre... existant sur notre planète, eh ben ça pourra pas faire de mal. Donc cette exposition, elle sera exposée aussi dans le cadre du projet Astre, dont j'ai parlé au début. On recevra 4 classes, des élémentaires, des collégiens, des lycéens. On fera des animations autour de tout ça. Il y aura une journée pour le grand public. Et de mon côté, de mai à juillet, donc si tout va bien, pendant la période de sortie scolaire, je recevrai entre 750 et 800 élèves pour l'astronomie, pour parler d'astronomie. Donc on espère, ça sera notre petite participation à l'avancée de la connaissance en astronomie avec les bénévoles de l'association Le Donjon de Houdan. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à mon tour de vous écouter attentivement. Merci, au revoir.
Bien, merci. Donc, je vais regarder. Pour l'instant, je vois pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à réagir. Moi, j'ai peut-être une petite question. Vous avez dit dans le diaporama que c'était important que les enseignants préparent un peu les élèves pour que ça ne tombe pas à l'attraction. Effectivement, c'est pas parmi les. Enfin, qu'est-ce qui serait pour vous les points importants pour cette préparation de la part des enseignants?
Lors de la discussion avec l'enseignante ou l'enseignant, le mieux, c'est déjà de savoir où en sont les enfants des connaissances, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait jusque-là, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. C'est aussi l'enseignante qui connaît bien sa classe et qui va pouvoir me dire sur quoi il ou elle voudrait insister. Les questions que les enfants posent, hein, souvent, c'est ça. Le but, moi, je pense que ce qui est important, c'est déjà de répondre aux questions des enfants pour que dans leur tête, il y a déjà des choses qui soient bien mises en place et qui soient acquises. Voilà, donc préparer, ça veut dire on en est où avec les enfants, qu'est-ce qu'on a envie, de quoi on a envie de leur parler, et puis un petit peu parler aussi, parce que moi, je ne suis pas une professionnelle de l'enfance, donc savoir au niveau... construction mentale, où en sont les enfants pour pas leur expliquer des choses qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre parce que leur développement psychomoteur n'est pas encore mûr pour ça. Voilà, et voilà, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, sachant que, bon là, c'est des maternelles, par exemple, en exemple, mais après, on va jusqu'au collège et lycée, c'est qu'ils repartent avec un certain nombre de connaissances. Pas forcément beaucoup, parce qu'il ne faut pas que tout se mélange. Mais voilà, quelques connaissances acquises, c'est vraiment le but du jeu. Après, on parle aussi comment on va s'installer, dans quelle classe on va être, de quel espace on va disposer. Pour le soleil, il faut que ce soit dégagé. Enfin, voilà, les choses un petit peu habituelles. On parle de ça avec les enseignants, parce que d'expérience, avec mon club d'astro, on fait des séances de planétarium. Enfin, je le fais plus, ça fait longtemps que j'ai déménagé. Mais on a bien vu que si les enfants n'étaient pas préparés, en fait, ça part tout de suite en cacahuète. Les enfants ne sont pas attentifs, ils pensent que c'est une récréation plus qu'autre chose. Et quand on déplace, par exemple, un planétarium entier avec plusieurs bénévoles et qu'au final, on fait plus la police dans la séance plutôt que d'avancer et d'essayer de donner aux enfants certaines notions, c'est dommage, tout le monde a perdu son temps. Donc, c'est pour ça que maintenant, je fais bien attention. Et voilà, c'est au travers d'une discussion un peu informelle. Hein, ça se fait simplement, en fait.
Vous avez tout à fait raison, parce que j'ai la même expérience avec le petit planétarium mobile qu'on a, nous, à Cergy. Pour être intervenu en école maternelle sans préparation préalable, on est effectivement dans la même situation. Par contre, une autre année où il y a eu un vrai travail de fond fait en amont, c'est passé comme une lettre à la poste. Ça a été vraiment très, très efficace.
Oui, tout à fait. Moi aussi.
Avec vos arguments. Il y avait une question sur le...
Oui, on a un spectateur, Pierre, qui a levé la main, donc je pense que voilà, vous pouvez parler.
Je me disais, je vois que le donjon, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant.
Oui.
Que vous en avez eu l'idée de vous en servir comme d'un instrument astronomique?
Oui.
Un peu comme c'est fait à Jaipur, où on a des grands cadrans sur des grands murs. Ouais. Utiliser le donjon comme un support pour faire des observations lui-même. Ça serait sympa, ça, avec un bâtiment aussi sympa,
aussi grand. Ouais. Oui, en fait, il y a un an ou deux ans, comme c'était les mesures pour la fête de la science, en fait, j'ai fait une exposition spéciale sur les mesures. Et au départ, je voulais même utiliser le donjon comme gnomon pour indiquer l'heure, en fait, pour que les gens voient quelle heure il est en faisant un énorme cercle au sol et puis en utilisant le donjon comme gnomon, mais il est mal placé en fait pour ça, parce que plein sud, en fait, ça finit par sur un autre bâtiment, donc ça marche pas. Donc moi, ce que j'ai utilisé pour la grandeur, la hauteur du donjon, c'est ce que je dis dans l'exposition. J'ai essayé de partir de l'échelle la plus basse en partant de la salle la plus basse du donjon et de monter les échelles jusqu'à arriver à l'échelle la plus haute dans la cuve de l'ancien château d'eau, qui se trouve tout en haut du donjon. On a parlé aussi avec Triel-sur-Seine de faire un partenariat pour essayer de faire une mesure de la vitesse de la lumière entre eux et nous, parce qu'on est distant quand même de plusieurs kilomètres, mais on n'est pas assez éloigné. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est encore pas tout à fait clair dans ma tête. Et puis, en fait, là, on parle d'astronomie, mais j'ai plein d'autres projets culturels très différents les uns des autres. Et en fait, il ne faut pas que je m'accapare tout le temps du donjon pour l'astro, parce que si je m'écoutais, je ne ferais que ça. Donc, j'essaye de mettre en avant d'autres choses, mais toujours de la science, par contre. Enfin, pas toujours de la science, mais quand même beaucoup de science, parce qu'on est dans une zone blanche sur Oudan où il n'y a pas grand-chose autour qui est proposé pour la science. Donc, voilà. Mais c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on pourrait faire plein de choses en utilisant la hauteur du bâtiment. Oui.
D'accord. Alors, sinon, on a une question dans le chat plus anecdotique. Enfin, quoique pas tellement, je pense que vous avez fait pas mal de jaloux et de jalouses.
Ouais.
Mais qui finance vos installations, en fait? Comment vous avez les financements?
Alors, en fait, donc moi, je travaille pour la mairie de Oudan. Je suis contractuelle de la mairie et je suis mise à disposition de l'association 1901, le donjon de Oudan. Donc, en fait, toutes les recettes d'entrée, des visites, c'est ça qui nous sert, en fait, après, de budget pour faire toutes ces expositions. On fait tout nous-mêmes de A à Z. C'est vraiment maison. Donc, on a un souci d'économie, justement. Donc, les maquettes, c'est nous qui les faisons nous-mêmes. Donc, j'ai pas tellement de budget, en fait. Donc, j'essaie toujours de me débrouiller pour pas à la fois utiliser trop les recettes de l'association. Mais de toute façon, tout est reversé à la mairie de Oudan. Donc, si j'ai besoin de quelque chose de particulier, je vais aller demander quand même à la mairie de Oudan d'essayer de financer. Le projet Astre, par contre, qu'on va faire avec Emmanuel Roland, c'est l'association qui prend en charge.
D'accord, bon, bah merci, merci à vous également pour votre
intervention. Merci à vous, merci.
Et donc, on va pouvoir passer à l'intervenant suivant.
Oui, c'est Wulfran.
Oui, donc je vais partager mon écran.
Du lycée Jean Mermoz.
Donc, je ne vois plus rien, donc je ne sais pas si c'est fait.
C'est bon. Oui.
Donc, on voit le... Voilà. Donc, je vais vous présenter quatre types de techniques expérimentales pour observer le soleil. Alors, la première, c'est un sténopé. Je l'ai utilisé deux occasions. La première, c'était à la MJC des Quatre Bornes à Metz, à l'époque où j'étais dans un club d'astronomie, lors d'une animation scientifique l'été. Donc, c'était un sténopé fait avec un tube de PVC de 1 à 2 mètres de long. On peut prendre ce qu'on veut. Et on pouvait observer l'image du soleil agrandie et on s'en servait pour mesurer le diamètre angulaire du soleil par chronométrage en fait. On faisait défiler l'image du soleil sur un trait marqué sur le papier calque. Donc, on a utilisé une monture azimutale maison, c'est-à-dire que j'ai pris un lampadaire, j'ai accroché le tube contre et puis avec un balai on pouvait régler la hauteur. Ce genre de sténopé a été refabriqué par mes élèves de seconde en mars 2015 pour observer l'éclipse partielle. Donc on en avait fabriqué plusieurs. Ils étaient plus courts, ils faisaient un mètre de long et on les a utilisés dans la cour du lycée parce qu'on a désobéi en fait aux consignes officielles pour aller observer l'éclipse. En fait. On avait une belle météo, on en a profité. Donc ça, c'est un instrument très simple à mettre en œuvre et donc qui est surtout un instrument d'imagerie. Un deuxième instrument que j'avais essayé, mais qu'une seule fois, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le réutiliser par la suite, c'est un radiotélescope fait avec une parabole d'antenne satellite et un dispositif qui se... En fait, le matériel est acheté dans un magasin de bricolage classique. Donc, il faut un peu modifier le SatFinder, donc c'est un petit dispositif d'aide au pointage des satellites. Et en fait, on va l'utiliser comme détecteur. Et avec ça, avec les élèves, en fait, on a mesuré le diamètre apparent du Soleil. Mais sauf que quand on travaille à 10 GHz de longueur d'onde, de fréquence, la longueur d'onde est de l'ordre de 8 mm. Et en fait, ce qu'on mesure, c'est la tâche de diffraction au foyer du télescope. Et là, pareil, en fait, on laisse défiler le Soleil devant le radiotélescope. Et en fonction du temps, on enregistre le signal. Donc là, on voyait, c'était des élèves de première S en fin d'année scolaire. Donc on mesurait, les voltmètres ont été mis tous en dérégulation pour faciliter la lecture pour tout le groupe de TP. Il y avait à peu près 16 élèves. Et les données, en fait, moi, je ne les ai jamais réutilisées. C'est un collègue qui enseignait en terminale S. Et au début de l'année en terminale S, il y avait de l'instrumentation. On parlait des détecteurs et des longueurs d'onde, notamment utilisées en astronomie. Troisième instrument, ça c'est un instrument disponible dans notre lycée, c'est un petit spectromètre qu'on utilise, donc c'est un spectromètre ULIS qui avait été reçu en dotation il y a presque une vingtaine d'années déjà. Donc simplement en pointant la fibre optique du spectromètre vers le ciel, on arrive à voir le spectre. Alors il faut juste faire attention de bien paramétrer, de corriger la réponse du spectromètre pour... il faut être sûr de mesurer vraiment l'intensité et pas voir simplement la courbe de réponse du détecteur. Donc il y a un petit paramétrage dans le logiciel à vérifier avant. Et on obtient l'allure générale du spectre du soleil. Donc c'est ce qu'on voit sous la figure à droite. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur de la souris. Donc on voit que vers le vert, on a le maximum d'émissions. Et ce qui est amusant ici dans le prochain infrarouge, là, vers la droite de l'écran, on a deux bandes d'absorption atmosphérique. En fait, il y a le dioxygène, je crois, et la vapeur d'eau. Donc ça, c'est, je l'utilisais encore quand on parlait du spectre de la lumière du soleil. Je l'utilisais encore en seconde. Et le dernier dispositif que j'utilise, ça, très régulièrement au lycée. Alors, je suis dans un lycée qui a fêté ses 60 ans. Et il traînait au laboratoire de physique un spectrogoniomètre à prisme. Qui a à peu près 20 cm de focale. Les lunettes là, font à peu près 15 à 20 cm de focale. Je n'ai pas mesuré exactement, c'est un peu de mémoire. La bâche en plastique noir, c'est juste pour éviter que la lumière rentre à l'intérieur du système optique. Et ce que je fais, je prends la lumière du jour et je la projette sur la fente d'entrée que je ferme au maximum, et j'utilise un condenseur pour augmenter la luminosité. Et en fait, ce qu'on voit très bien, surtout s'il y a beaucoup de lumière, on voit les rayons de Fraunhofer. Alors, j'ai essayé de les photographier, ça rend très très mal. Mais à l'œil nu, quand on observe dans ce spectroscope, c'est magnifique, surtout si on arrive à faire entrer beaucoup de lumière. On voit vraiment une centaine de rayons. Et comme le spectromètre à prisme disperse beaucoup plus la lumière dans le vert et dans le bleu, c'est en fait là où il y a le plus de rayons. Et donc ce goniomètre, je l'amène régulièrement en classe pendant les séances de TP où on fait des exercices sur par exemple les raies d'émission ou d'absorption atomique. Donc ça peut être l'occasion, notamment maintenant dans le programme de spécialité de physique en première, pendant que les élèves travaillent sur les exercices ou les TD, à tour de rôle, ils viennent voir jeter un coup d'œil dans l'instrument pour observer quelque chose de beau simplement. Un magnifique arc-en-ciel avec des petits traits noirs très fins dedans, et ça reprend en fait l'expérience historique de Fraunhofer. Donc, il y a une petite illustration sur la gauche où Fraunhofer utilisait un dispositif presque identique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement la lentille collimatrice, il n'y avait pas la lunette collimatrice. Il visait un reflet du soleil qui était situé à quelques mètres, mais ensuite le prisme et la lunette, c'était le même principe. Voilà quatre expériences que j'utilise ou que j'ai utilisées au lycée avec mes élèves. Et la dernière, je l'utilise encore très régulièrement chaque année, simplement parce que c'est une très belle chose à voir, en fait, le spectre du soleil avec les rayons de Fraunhofer. Voilà. Si je peux maintenant répondre à quelques questions.
Merci beaucoup pour cette intervention. Justement, moi j'en aurais une, puis après il y a une ou deux questions effectivement qui ont dû apparaître dans le chat ou dans les QR. C'était votre réflexion, votre position par rapport au point que j'avais évoqué en introduction, c'est-à-dire la difficulté finalement, alors au niveau du matériel, je pense que vous l'avez résolu et vous l'avez montré également dans d'autres ateliers, en réutilisant effectivement du matériel qui peut se trouver, alors certes, peut-être pas dans tous les établissements, hein, spectrogoniomètre.
Le dernier, non, mais il faut un établissement, alors le mien a 60 ans, mais on peut, c'est vrai que les établissements modernes, ça ne fait plus partie des dotations, mais les lycées plus vieux en ont normalement, ça traîne dans les collections.
Oui, ou après l'autre possibilité aussi serait éventuellement de monter un TP avec une université, puisque les universités ont
du matériel, des spectrogonions.
Ouais, ou éventuellement simplement demander. Je m'avance un peu, mais enfin je m'avance pas parce que je gère un peu le matériel à Sergi, mais de prêter à l'université, de prêter éventuellement son matériel. Ça peut être aussi une piste. D'où l'utilité d'établir des liens. Mais ma question est surtout concernant l'aspect relation avec les programmes. Parce que je vois que vous faites plein de choses, notamment en radioastronomie aussi, vous avez essayé des petites choses. Est-ce que c'est difficile finalement de trouver un biais ou un moyen de faire rentrer ça, peut-être au chausse-pied, dans les programmes, de façon à pouvoir l'utiliser pour avec vos élèves?
Alors, les trois dernières expériences sont prévues pour les programmes. Les rayons de Fraunhofer, c'était les rayons d'absorption atomique. Dans l'ancien programme de seconde, on en parlait. Actuellement, ce n'est plus que les rayons d'émission. Par exemple, pour le nouveau, dans le programme d'enseignement scientifique au début de l'année scolaire, on parle des rayons d'absorption notamment des éléments chimiques. Donc, on peut l'amener en classe vite fait pour montrer aux élèves à quoi ça ressemble un vrai spectre de rayons d'absorption, à quoi ressemble le spectre du soleil. Donc, ils voient effectivement qu'il y a plein de petits traits noirs dans le spectre. Et ensuite, on peut basculer sur le cours. Donc, c'est vraiment une manip qui ne va pas fonctionner longtemps en classe, hein, 5 minutes, mais ça va permettre d'accrocher l'élève et d'apporter la suite. Pour le rayonnement du corps noir, ça, on est en plein dans le programme d'enseignement scientifique, et en seconde et en première aussi. Ça, donc ça, c'est vraiment des accès programmes. La seule manip qui était un peu plus exotique, entre guillemets, c'était le sténopé. Le sténopé, il n'y avait pas réellement au lycée d'usage direct. L'éclipse partielle a été un prétexte pour moi de ressortir cette vieille manip. La première fois que j'avais utilisé, c'était en 2003. La seule fois que j'avais utilisé, c'était en 2003, quand j'étais encore, quand je faisais un autre métier, que j'étais aussi membre du club d'astronomie de Metz. Et on avait utilisé ça lors d'une animation scientifique pendant l'été. Mais les trois dernières expériences que j'ai montrées sont utilisées ou ont été utilisées. La parabole, je l'ai utilisée qu'une fois parce que je n'ai jamais eu de terminal en fait. Ça aurait été utilisé en début d'année en terminal S, mais je n'ai jamais eu de terminal S. Et c'est un ami en fait qui a récupéré les données pour les exploiter avec ses élèves en début d'année parce que ça faisait partie du début du programme de terminal S.
Et du coup, vous avez commencé à avoir une réflexion maintenant sur les nouveaux programmes, sur les spécialités, ce que vous pourriez proposer à vos élèves. Enfin, je ne sais pas si vous avez des spécialités.
Alors, j'ai eu qu'une seule. C'est un peu compliqué dans mon lycée, donc je ne peux pas en parler plus. Okay. Y a des conflits. Voilà. Ça fait partie. J'ai tout un stock de manip comme ça que je vais progressivement remettre en place. Ce qui va manquer, par contre, c'était les TPE, donc les travaux personnels encadrés, puis une certaine liberté que permettait l'option MPS ou l'accompagnement personnalisé en seconde. Tous ces points-là ont disparu et ça nous permettait d'avoir beaucoup plus de temps et pour développer des activités complètes de 1h20, quoi, une séquence de TP. Alors que maintenant, avec les nouveaux programmes, c'est un peu moins évident. Par contre, pour l'astronomie dans les programmes, il y a d'autres expériences qui peuvent être utilisées, notamment en enseignement scientifique. Des expériences que j'avais montrées dans un atelier la séance précédente, là. Notamment pour tout ce qui est variation du jour et de la nuit, le cycle des saisons, avec il y a différentes expériences que je vais réutiliser.
Il y a aussi une remarque dans le QR. Oui, vas-y, Nicolas.
Il y a un spectateur qui a levé la main qui dit peut-être pour passer la parole. Enfin, un ou une. Parce que...
D'accord. Juste en attendant, je fais juste le lien avec la question dans le QR qui peut être aussi un biais pour utiliser vos expériences. C'était le fait d'avoir une estimation des instituts sur les mesures que vous pouvez faire. Parce que ça, c'est typiquement dans les programmes. Et éventuellement, ça pourrait être un biais pour utiliser telle ou telle expérience.
Alors, par exemple, on pourrait imaginer, si on a le temps, par exemple, en faisant un club astro, on peut essayer de mesurer le diamètre apparent du Soleil.
Je vois des discussions, par contre, je ne sais pas qui les envoie.
Ouais, donc, le diamètre apparent du Soleil, on peut le mesurer, par exemple, avec le sténopé, en le laissant défiler pendant quelques minutes et en chronométrant. Donc 24 heures, c'est un tour complet, puis on regarde combien de temps le Soleil a mis pour traverser une ligne sur l'écran, sur le papier calque, et on en déduit que le Soleil a un diamètre apparent d'environ 0,5 degrés d'angle. Et quand on fait la même chose avec le radiotélescope, on se rend compte qu'il y a un gros problème, c'est qu'on trouve 2 ou 3 degrés. Et on se dit, il y a un problème quand même. Et en fait, la solution, c'est de parler de la diffraction. Puisqu'on est à une longueur d'onde avec le radiotélescope, quand on est à 10 GHz, la longueur d'onde elle est de l'ordre de 8 mm. Et on ne peut plus du tout négliger l'effet de diffraction. Je crois que la tache d'Airy fait justement 2 ou 3 degrés d'angle. Donc ça, c'est par exemple une idée, mais il faut avoir le temps. C'est-à-dire qu'on peut confronter deux mesures, une dans le visible, une à 10 GHz, et se rendre compte qu'il y a un problème. Donc il y a un phénomène physique qui vient en fait de l'instrument. Et donc, on voit que l'instrument de mesure va aussi induire une modification du signal, hein, donc sans parler jusqu'à la fonction d'appareil. Mais on peut mettre en évidence que, tiens, il y a un truc bizarre qui se passe. Et donc, introduire à ce moment-là le concept de diffraction, qu'on peut aussi ensuite faire apparaître dans un instrument optique en réduisant complètement l'ouverture de l'objectif, quoi, par exemple.
Okay, okay.
Donc, c'est pas tout à fait la notion d'incertitude, mais on voit que mesurer, c'est pas si évident que ça, en fait. C'est pas direct. Il peut y avoir des choses, des perturbations induites par l'instrument. Voilà.
Tout à fait. Nicolas, tu avais quelqu'un qui voulait intervenir ?
Oui, c'est ça. Donc, vous avez, normalement, si vous ouvrez votre micro, ça doit être bon. Là, 1100, mais je... Ça ne fonctionne pas. Vous avez coupé votre micro, en fait.
Merci pour le petit calcul pour la longueur d'onde. Je m'en souviens plus de tête. Donc, c'est 3 cm de longueur d'onde, apparemment.
Bon, du coup, on va peut-être passer, tant pis.
Ok, bon, on va passer à l'intervenant.
Juste une petite réponse par rapport au spectromètre à réseau. Quelqu'un avait parlé de... On peut effectivement utiliser utiliser un réseau de diffraction pour observer le spectre du Soleil. Moi, j'avais profité du fait, on parlait de Fraunhofer, je montrais une gravure de l'expérience de Fraunhofer et j'avais un spectromètre à prise. C'est pour ça que j'ai voulu avoir le même type d'instrument que là. Voilà.
Oui, puis ça donne de très belles images.
Bon. Ok, merci beaucoup.
Merci.
Donc, on va passer à
Olga.
À Olga, pour laquelle on a on a une petite vidéo.
Oui, bonjour.
Je vais demander à Anna. Voilà. Je crois que la vidéo est partie.
Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de ce projet EduCosmos qui est mené à l'Observatoire de la Côte d'Azur avec des élèves et des enseignants de l'Académie de Nice. Donc, le projet EduCosmos consiste à la participation des classes des collèges et des lycées à des observations astronomiques, mais dans le cadre d'un programme de recherche qui est mené à l'Observatoire. Dans ce cas, cette année, on participe au suivi sol du satellite TESS, un satellite américain qui mesure des transits d'exoplanètes, observe des transits d'exoplanètes. Et les élèves font des observations à distance avec un télescope d'un mètre de diamètre que vous pouvez voir sur la photo, qui est situé sur le plateau des Calernes, à une cinquantaine de kilomètres de Nice. Les objectifs sont pour nous de rapprocher les élèves de la recherche, de leur faire comprendre comment on fait, comment on travaille, qu'ils utilisent la démarche scientifique et bien sûr éveiller le goût pour la science et tous les objectifs que vous pouvez imaginer et que je pense que vous connaissez très bien. On commence toujours avec la formation d'enseignants et qu'on trouve totalement nécessaire pour que les choses fonctionnent bien. C'est une formation par an dans laquelle on accueille les équipes pédagogiques complètes, impliquées, pas uniquement les scientifiques, et qui est organisée en partenariat avec les rectorats et qui a lieu sur le plateau des Calernes, à l'observatoire, pendant 2 jours et une nuit d'observation, et où on traite des contenus astronomiques reliés aux notions scientifiques pour le programme de recherche et aussi à comment observer avec un télescope. Les enseignants ne sont pas forcément des astronomes amateurs. Et des questions éducatives de comment travailler avec les élèves dans le cadre de ce projet. Ce sont des moments conviviaux aussi qui nous aident à mieux connaître les enseignants et à mieux travailler avec eux, ça va nous aider après tout au long de l'année. Pour mener à bien un projet de la sorte, il nous faut aussi travailler avec les élèves dans la classe. On le fait, les enseignants le font de leur côté, mais nous aussi, on intervient plusieurs fois dans la classe autour de l'astronomie en général, des notions génériques comme le système solaire, comme les distances dans l'univers, le contexte de notre galaxie. Et on traite en particulier le programme des recherches, donc notamment les exoplanètes, comme vous pouvez voir ici. On a une petite application qui montre des courbes des lumières, des transits, et une maquette avec un photomètre, une maquette motorisée dans laquelle la planète passe devant l'étoile et on peut la mesurer. On apprend les élèves à observer, on a construit un jeu de plateaux qui marche très bien avec les différentes étapes et que les élèves doivent suivre pour mener à bien une observation. Ils aiment bien jouer et ça marche bien. Ils arrivent à bien intégrer et bien comprendre. Et après, on a une session d'observation des 3 heures dans la classe en début des soirées où les élèves vont piloter eux-mêmes le télescope. Donc, plusieurs points autour de cette session d'observation, des difficultés. On sait que c'est des fois compliqué pour les enseignants de gérer toutes les questions administratives, de rentrer au lycée, au collège le soir. On a appris que les ordinateurs et les réseaux se coupent pendant la soirée. Donc, il faut gérer ça et ce n'est pas toujours évident. On a eu plusieurs petits soucis. Les élèves sont contents, excités, mais fatigués parce que c'est la fin de la journée. Et on gère, on travaille en classe complète, on gère la classe complète et c'est, des fois, ce n'est pas aussi évident qu'avec un petit groupe, mais ça marche. Et il faut gérer toujours en astronomie les annulations dues à la mauvaise météo. Comme point positif, les élèves sont contents, ils sont excités d'être le soir au collège ou au lycée. Il y a des révélations d'élèves qui sont a priori, qui n'étaient pas a priori intéressés, mais qui, comme ils sont obligés d'y être, ils découvrent qu'ils peuvent travailler aussi bien que leurs collègues, et ça marche très très bien ça. On invite les parents à la fin de l'observation et les élèves présentent ce qu'ils ont fait. Ça marche très bien au collège, au lycée beaucoup moins, ils ne viennent pas en général, parce que les élèves rentrent seuls. Et les élèves, là, notamment plutôt les lycéens, sont très reconnaissants et ils comprennent très bien qu'ils ont participé à un projet de recherche international et ils aiment beaucoup. Et ils vivent un moment privilégié aussi avec nous, mais aussi avec leurs enseignants. Et les enseignants nous disent que ça change le rapport avec eux et par la suite. Donc, que c'est très, très positif. On traite les données aussi avec les élèves. On le fait comprendre que l'observation, ce n'est pas uniquement le jour de l'observation, c'est ce qu'on en tire après. Et donc, comme petit bilan final, c'est une expérience très positive qui dure depuis 2013, autour de 80 classes impliquées, autour des 2000 élèves. On a besoin de l'implication des enseignants participants, mais on a cette implication qui marche très bien. Et on a vu que c'est important de participer, au moins pour nous, dans un projet de recherche. Merci beaucoup de votre attention.
Merci, Olga.
Avec plaisir.
Pas de questions, mais moi, j'en aurais une. 80 classes impliquées, est-ce que c'est 80 classes différentes ou est-ce que c'est tout le même établissement depuis 2013? Tu vois, tu as deux ou trois lycées ou collèges avec lesquels tu fonctionnes ou est-ce que vraiment ça SM? Parce que moi, c'est vraiment une problématique que j'ai sur l'ensemble de ce que l'on peut proposer. Et on voit toute la richesse de ce que tout un chacun fait un peu dans son coin. L'idée de ce colloque, c'est aussi un peu de rassembler, mais c'est aussi un peu d'essayer de résoudre aussi les difficultés auxquelles on peut être confronté. Et cette idée vraiment d'essemer, de pouvoir ouvrir au plus grand nombre, moi, elle me touche particulièrement. Et voilà, est-ce que toi, tu as une réponse à ça? Est-ce que tu vois, l'idée, c'est de passer finalement de ce que j'appellerais, moi, l'artisanal, où tu fonctionnes avec un ou deux lycées parce que tu as un contact privilégié avec tel ou tel enseignant. Donc, effectivement, quand tu fais ça sur un certain nombre d'années, ça fait effectivement beaucoup d'élèves qui sont passés. Mais pour autant, il y a plein d'autres lycées, il y a plein d'autres enseignants à côté. Et voilà. Donc, est-ce que tu as une réflexion là-dessus?
Oui, donc je suis d'accord avec toi. Et nous, on a eu la chance de faire participer ces projets du Cosmos à d'autres projets plus grands, donc des financements plus grands. Et donc, notamment un financement qu'on a dans la région PACA pour les lycées, c'est les projets Aperlac. Donc, ils financent des projets pour les lycées. Et c'est la région et le rectorat qui communiquent autour de ces projets. Donc, et nous, on propose le projet et c'est les enseignants qui choisissent de travailler avec nous. Comme ça, on varie. Mais en fait, on a vu que la première année, les enseignants, ils ont besoin de plus d'un an vraiment pour profiter au maximum du projet. La première année, ils découvrent, ils apprennent et ils mettent en place leur approche aussi pédagogique. La deuxième année, la troisième année, ils profitent le mieux. Et après, c'est un projet qui fatigue beaucoup aux enseignants parce qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Donc après, ils laissent la place à quelqu'un d'autre. Donc, on a eu des enseignants qui sont passés, qui reviennent des années après. Okay. Je n'ai pas le nombre d'établissements, mais je pense qu'on a dû avoir une trentaine d'établissements différents entre collège et lycée, peut-être.
Ouais. Moi, j'ai une petite question parce que j'ai vu passer sur la vidéo un exemple où, si j'ai bien compris, vous avez une maquette, une modélisation d'étoiles avec une source lumineuse, une planète qui passe devant. Vous montrez que ça fait varier la luminosité. Donc, en fait, vous faites une première observation sur une maquette un peu locale et ensuite, vous faites les observations réelles, j'imagine, d'exoplanètes. J'ai trouvé ça très intéressant d'associer cette maquette modélisante et les observations. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça de...
Oui, on le fait aussi pour le traitement des données, en fait. On a compris que c'est important pour les élèves de voir, parce que si on leur montre juste la partie numérique, on va dire, ils se connectent à distance à un télescope, ils sont allés voir le télescope, hein, donc ils le connaissent. Mais si on montre juste cette partie numérique, c'est quelque chose de très abstrait. Donc, à l'aide de la maquette, ils voient comment ça marche et après, ils arrivent à comprendre. On leur fait travailler avec des cours des lumières. Donc, on présente plusieurs cours des lumières d'exoplanètes, des transits. Et ils doivent dire quelle planète est plus proche, quelle planète est plus longue, et, etc. Donc, ils doivent travailler sur le papier avant. On avait travaillé aussi autour des astéroïdes. Donc, c'est la première année qu'on fait des exoplanètes cette année. Et on a fait des astéroïdes auparavant, et là on faisait des cours des lumières, hein, on fait de la photométrie, et on leur donnait un caillou et on disait, bah, mettez-vous loin, imaginez comment vous pouvez avoir des informations de ces cailloux. Donc les autres, ils ont travaillé par groupe, comment vous pensez pouvoir arriver à avoir des informations sur la forme de ces cailloux si vous êtes loin et vous n'arrivez pas à voir la forme. Et donc, bah, ils disaient un peu, c'était très varié, leur réponse. Mais après, on essayait de converger vers l'idée, si le caillou est illuminé et on n'arrive pas à voir la forme, mais à mesurer la lumière, on arrive à avoir une courbe de lumière. C'est là où on voulait arriver. Et pareil, pour le traitement des données des astéroïdes, on avait pris des images d'un astéroïde qui tournait vraiment. On quadrillait l'image, ils devaient compter les points de lumière qu'il y avait dans l'image, donc les petits carrés qui étaient illuminés, et faire une courbe de lumière à la main. Et après, ils passaient sur le logiciel, on utilise Astroimagy, et ils obtenaient, enfin pas la même chose, parce que ce n'était pas le même astéroïde, mais le même principe, donc ça, ils comprenaient très bien.
Alors, on a une question de Pierre Chastenet, peut-être.
Oui, ben en fait, je trouve ça extrêmement intéressant.
On ne sait pas, malheureusement.
Oui, tu peux le laisser, c'est pas grave.
Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais maintenant passer la parole à Lionel Ruiz pour
le... Voilà, bonjour Lionel Ruiz, donc du Planétarium de Marseille. Donc, je vais partager. Voilà. Et c'est parti. Donc, on a déjà parlé du gnomon et de l'utilisation au moment des équinoxes. Donc, ça, c'est intéressant, mais on peut aussi faire la même mesure donc au passage du soleil au méridien, au solstice, et comme ça, déterminer ce que l'on appelait avant l'obliquité de l'écliptique, un mot que j'adore donner aux élèves, puisque c'est un mot un peu barbare qui fait peur, et qui va permettre après de faire le lien avec ce que c'est pour nous, maintenant qu'on l'a compris, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil. Et donc, on peut mesurer comme ça l'écart entre les équinoxes et les solstices, donc d'un angle ici qui est le même entre l'équinoxe et le solstice d'hiver par rapport à l'équinoxe et le solstice d'été. Donc, on peut faire plein de mesures. Et évidemment, avec un gnomon, ce n'est pas simple. Donc, ce qui a été présenté au début est intéressant puisque c'est beaucoup plus facilement mesurable en prenant les nœuds sur la corde, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a aussi la possibilité de prendre donc, un gnomon. Alors, un gnomon, ça peut être juste un bâton planté hein, sur le sol, pas besoin qu'il soit droit. Le tout, c'est de pouvoir mesurer avec un fil à plomb, par exemple, la hauteur donc, bien rectiligne par rapport au sol, un sol qui doit être plat. Donc, on peut, avec une planche, justement, avoir la possibilité de bien mesurer cette planéité. Mais nous, donc, à l'Observatoire de Marseille, observatoire historique, on a un gnomon. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à certains cadrans solaires ou quoi, où vous avez décrit et placé sur le sol toutes les courbes, eh bien là, il est assez frustre. Il y a juste la méridienne qui est tracée. Ça permet de dire bon ben voilà, est-ce qu'un élève en prenant le crayon d'une couleur peut marquer donc le sommet de l'ombre du gnomon, ok, il le marque et puis vers où ça va aller. Et donc il y a plein de possibilités qui leur sont offertes et en fonction de ce que l'on a expliqué au début, donc le soleil se lève du côté de l'est, va se coucher du côté de l'ouest, va passer plein sud, ou vers où va évoluer l'ombre. Et là, c'est assez incroyable, parce qu'à chaque fois, j'ai tous les cas de figure qui se proposent. Bon, il suffit de lire un petit peu pour voir quel est le raisonnement à amener à faire ça. Et du coup, ben, après, on essaie de construire un petit peu avec justement un morceau de bois planté, un gnomon, avec un éclairage, et comme ça, voir l'évolution de l'ombre en fonction de si on monte, si on incline plus ou moins la lampe. Alors, autre chose liée au soleil que l'on peut utiliser, c'est un sténopée, ça a été dit. Hein, mais pour ce qui est des sténopées, il y a des sténopées naturelles que l'on peut utiliser au moment notamment d'une éclipse. C'est au pied d'un arbre de pouvoir voir que par l'interstice des feuilles, on va pouvoir avoir des conditions de sténopée. Et donc sur le sol, l'éclipse qui va être reproduite en miniature. Hein, mais c'est une chose que l'on peut faire évidemment avec une chambre noire, donc, comme ce qui a été montré tout à l'heure. Mais il y a aussi une possibilité qui est intéressante, c'est de le faire avec un miroir. Alors, avec un petit bout de miroir cassé, ou ça vous porte pas malheur, ou bien des petits morceaux de réfléchissant que vous allez mettre au soleil, et il faut que la classe où vous êtes se retrouve à l'ombre, hein, et c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le soleil qui rentre, hein, au contraire, et donc de renvoyer la lumière du soleil sur le petit miroir et faire rentrer la lumière dans la classe. Alors, si on met le miroir assez loin, eh bien, on va avoir, même si le miroir est carré, et ça c'est d'autant plus intéressant que le trou d'un sténopée soit carré ou le petit miroir soit carré, pour montrer que justement ce n'est pas parce que le trou est rond qu'on va avoir une tache ronde, il faut bien montrer que c'est le soleil. Et justement, rien de mieux qu'une tache carré, un trou carré ou bien un miroir carré pour montrer que le résultat projeté, eh bien, ça va être le soleil, et comme ça, on va pouvoir mesurer l'angle solide, l'angle du soleil, donc le demi-degré, hein, puisqu'il suffit d'attendre 2 minutes, hein, et donc, pour positionner bien comme il faut le miroir, on peut utiliser un petit bout de pâte à fixe, hein, pour pouvoir bien l'orienter, que ça rentre bien dans la classe, et donc, ça permet de suivre aussi assez facilement une éclipse. Alors, pour ce qui est de la Lune, avant de venir au planétarium, souvent, si c'est à une période de dernier quartier, eh bien, on peut proposer aux classes, avant qu'ils viennent, et puis bon, les enseignants sont tout à fait d'accord, de leur demander d'observer la Lune le soir, les jours de 2 semaines, aux alentours de 2 semaines avant leur venue, quand ils viennent au dernier quartier, et donc comme ça de noter jour après jour ce qu'ils vont observer le soir depuis chez eux, de la phase lunaire, et donc voir un peu ce que l'on peut en tirer après, et de manière à pouvoir amener à ce que elle peut être cachée ou quoi, ou bien à un moment donné, si on les fait observer après la pleine lune, à la tombée de la nuit, ils vont voir qu'ils ne voient pas la lune. Et donc, c'est essayer de retrouver la lune quand ils viennent au planétarium le matin, de leur dire, on va essayer de faire des petites maquettes pour montrer, comme Pierre Chastenet a montré aussi ce matin, et de faire une construction pour pouvoir dire, à ce moment-là, si on ne la voit pas le soir, comme elle a continué de tourner autour de la Terre, on va devoir la voir le matin. Et donc, on sort de la classe, et s'il fait beau, bien entendu, de la classe ou du planétarium, et on devrait voir la Lune, et effectivement, on peut voir la Lune en plein jour, le matin, et donc ça permet de valider les hypothèses par rapport à la démarche d'investigation qui a été menée avec les élèves, et de comme ça pouvoir mettre une théorie derrière et de la valider par l'observation du croissant ou du quartier lunaire, donc le matin, quand ils viennent le matin. Alors, on peut observer donc le Soleil, la Lune, mais on peut aussi observer les planètes, et ce, même en classe, en plein jour, parce qu'il y a une planète que l'on peut voir en plein jour, à l'œil nu, c'est Vénus. Alors, pour pouvoir voir Vénus en plein jour, il faut quand même que le ciel soit bien bleu, c'est-à-dire pas un ciel laiteux, hein, mais bien bleu, et si possible une Vénus qui est quand même assez haute dans le ciel, comme c'est parfois le cas. Évidemment, il faut qu'elle soit assez éloignée du Soleil, donc que son élongation soit assez importante. Et pour pouvoir la trouver, c'est pas évident. Alors, vous pouvez vous servir de Stellarium. Et Stellarium va permettre aussi de pouvoir vous donner, si vous le lancez au moment de l'observation, vous pouvoir vous donner l'ascension droite, la déclinaison, et l'azimut et la hauteur. Alors, à ce moment-là, si vous utilisez... Alors là, c'est une diapositive qui vient de... de Lyon, hein, donc Philippe, j'ai plus le nom en tête, mais cet instrument, alors en version équatoriale, peut être utilisé pour pouvoir mesurer l'angle horaire. Alors, l'angle horaire, c'est le temps sidéral local moins l'ascension droite, et la déclinaison, ben, elle se met aussi sur donc, un simple théodolite ou bien une monture équatoriale bien positionnée, ou bien avec justement juste un théodolite, non pas un équatorial, mais un azimut et en hauteur, pour pouvoir avoir la direction de Vénus, pour pouvoir comme ça la localiser à l'œil nu, en se mettant si possible à l'ombre, ou bien en mettant un paravent devant le Soleil pour cacher le Soleil. Alors pour terminer, ben, on peut aussi s'intéresser aux étoiles. Alors les étoiles, ça peut être le Soleil. Tout a été dit, hein, je dirais, si ce n'est que on peut, alors le mieux évidemment, et c'est ce que j'utilise, c'est un réseau, hein, et les réseaux du CLEA sont fantastiques et pas chers, mais sinon, si vous voulez que chaque élève reparte avec un spectroscope, eh bien, vous pouvez leur demander de récupérer un vieux CD-ROM qui ne sert plus, et soit de le casser, soit d'utiliser ce truc-là qui vient de l'Observatoire Midi-Pyrénées, du GAPIC, et qui permet comme ça très facilement de réaliser un spectroscope et qui va vous permettre comme ça de voir assez facilement les raies d'absorption ou les raies d'émission pour des lampes, des néons ou quoi. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant et de facile et vraiment pas cher à fabriquer. Voilà. Merci à vous.
Merci Lionel pour cette belle présentation. Malheureusement, comme le temps nous est compté, je crois qu'on va un peu zapper les questions pour pouvoir laisser les autres intervenants s'exprimer. Je vous laisse par contre y répondre directement dans sur le QR ou dans le chat, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille prendre la parole. Nicolas ? Non ?
Non, je vois pas. Je ne vois personne.
Non. Bon, on va passer à l'intervenant suivant. Alors, Vincent Hénaff, enfin Laurent Hénaff, pardon, excusez-moi. Voilà, s'il est là.
Oui, bonjour.
Oui.
Voilà, très rapidement, moi, je vais être beaucoup plus modeste dans ma présentation que les différents collègues, puisque je vais vous parler de ressources qui ont été produites en Lot-et-Garonne par un groupe d'enseignants et de quelques chercheurs et des enseignants du premier et du second degré, et qui, là, travaillent pour le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas en pédagogie de projet cette fois-ci. On essaye de trouver des moyens pour que les enseignants puissent, avec le matériel qu'ils ont, enseigner, notamment ceux qui ne sont pas à l'aise du tout avec les sciences. On a un certain nombre d'enseignants dans le premier degré, ça a déjà été dit, hein, depuis le début du colloque, et qui ne sont pas du tout scientifiques dans le premier degré. Et donc, l'idée, c'est de leur donner clé en main des séances qui leur permettent d'enseigner, notamment par rapport à l'astronomie. Je vais partager mon écran très rapidement. Je vais vous montrer... alors, attendez, voilà. Okay. Et je vais vous montrer très, très rapidement le site qu'on utilise, qu'on a construit avec quelques petites ressources. Alors, il faut que j'y arrive. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran ?
Oui, oui.
Voilà, rapidement. C'est donc un site qui avait vocation, qui a été construit conformément au programme 2008 et qui avait vocation de permettre aux enseignants d'enseigner. Donc, la totalité du programme, on a parlé de cette difficulté de la densité du programme, en peu de temps, avec peu de choses. Donc, on avait une partie, on a toujours une partie sur le ciel et la Terre, les mouvements de la Terre, notamment tout ce dont on a beaucoup parlé là, les mouvements de la Lune qui, malheureusement, ne sont plus au programme du cycle 3 pour le moment. Donc, dans l'idée, on propose du matériel souvent déjà présent dans les écoles, une fois aux questions, des petites animations qui ne fonctionnent plus toutes comme il faudrait. une vidéoconnaissance. L'idée, c'est de reprendre les concepts nécessaires pour enseigner sur cette séance-là, et une fiche qui décrit vraiment les choses avec des vidéos de classe, avec des enseignants lambda, et donc qui proposent aux élèves donc des activités. Très rapidement, voilà, par exemple, le Gnomon, on en a déjà parlé, avec une vérification de l'orientation pour avoir plusieurs prises, une localisation dans la cour, et des élèves qui vont petit à petit noter au cours de la journée les différentes ombres, leur longueur. Et bon, c'est un outil intéressant, mais pour décrire la course du soleil, mais qui est un petit peu en creux, dans le sens où plus le soleil va être haut, plus le bâton va être court. Et pour les élèves de cycle 3, en tout cas en début de cycle 3, ce n'est pas toujours évident. On mesure aussi les degrés de position du soleil dans le ciel par rapport à un compas qu'on trouve dans toutes les classes. Et en regardant l'ombre qui se pose de chaque côté, on a une direction approximative du soleil. Et on a également un autre petit instrument. Là, on fixe un tube de stylo et sur différents concepts d'astronomie. Voilà, très rapidement, j'en dis pas plus, je sais qu'on est très en retard.
Oui, effectivement, mais merci, parce que je pense que c'est important. Il y a eu dans le chat des demandes pour le lien vers votre site que j'ai indiqué, d'ailleurs.
D'accord, merci.
J'espère ne pas avoir commis d'impair.
Non, non, absolument pas, tout à fait. On a beaucoup de visiteurs sur ce site et beaucoup de remerciements des gens qui ne savent pas enseigner les sciences. Et voilà, notre idée, c'est de travailler. On essaie de poursuivre ce travail, mais dans le premier degré, on a beaucoup, beaucoup de mal à faire autre chose que des maths et des sciences en ce moment. Donc, voilà. Des maths et du français, pardon.
Tout à fait. Donc, d'où l'importance, effectivement, de ce type de colloque pour, un, faire du lien entre les gens et deux, pour effectivement mettre à disposition les ressources que chacun dans son coin a construit de façon très, très pertinente. OK, on passe à l'intervenant. Alors, il nous reste deux personnes, donc Pierre et puis Guillaume, qui ont déjà eu du temps de parole. Donc, je vous demanderai de faire relativement court. On terminera par Pierre. Donc, peut-être Guillaume, un petit mot. Comme ça, Pierre, tu pourras nous faire une petite synthèse. Désolé, Nicolas. OK, Guillaume.
Nicolas, est-ce que tu pourrais fermer ton partage d'écran, s'il te plaît ?
J'essaie de retrouver.
En tout cas, super ton site. Hein.
Merci. J'essaye de supprimer le partage d'écran, mais j'avoue que là, j'ai un peu de mal.
En bas, au centre, normalement.
Ah oui.
En haut.
Il faut que j'agrandisse.
Un truc rouge avec annuler le partage d'écran.
On va y arriver. Oui, ça y est, c'est bon. Partage d'écran, normalement, ça va être… Non, j'ai sur partager. Arrêter, oui, tout à fait. Donc, voilà.
C'est bon.
Merci. Oui, je vais aller vite. J'ai déjà présenté ce qu'on fait avec Insight Education et Mars 2020 au sein de la cellule éducation de GéoAzure. Mais j'ai voulu un peu cibler sur le thème de cet atelier, observer, expérimenter. Donc, je voulais vous montrer déjà ce qu'on pouvait faire en classe au niveau de l'observation. Donc là, vous voyez déjà pas mal d'élèves qui sont pris en photo sur différentes expérimentations. Au niveau de l'observation, c'est avoir des données de la part des scientifiques et des missions, donc des données réelles. Les élèves vont vraiment être stimulés par ça et ils vont vraiment comprendre le travail du scientifique. Donc déjà, on arrive à observer des données météo sur InSight, on arrive à voir des données sismiques. On a un site qui est disponible ici, sur lequel on a un onglet « Data », et sur cet onglet « Data », on arrive à avoir différentes données et enregistrements. Donc, les élèves peuvent comparer les températures sur différentes journées, ils peuvent récupérer les dossiers, les analyser avec des logiciels. Donc, c'est assez parlant pour les élèves. Donc, ils arrivent à observer. Ensuite, expérimenter. Expérimenter, comme je l'ai dit dans un autre atelier, on arrive à fournir des mallettes pédagogiques pour que les élèves puissent faire des modèles. et expérimenter. Là, je vais vous donner rapidement un cas d'étude. C'est le Sol 235. Sol, c'est la journée au niveau martien. Et on a pu enregistrer 4 séismes. Et durant d'un séisme, un earthquake. Et les élèves, finalement, vont travailler là-dessus. Et ils vont avoir pour but à localiser ce earthquake, utiliser des accéléromètres pour essayer de voir avec l'azimut dans quelle direction il se trouve. Et enfin, découvrir que la première zone sismique extraterrestre se situe au niveau des fosses de Cerbère, au niveau martien. Donc, ça permet de travailler sur les ondes sismiques, calcul de la vitesse, différence. Ensuite, on a un logiciel qui s'appelle MarsView qui permet de travailler avec des odochrones et la vitesse des ondes sismiques. Donc là, ils arrivent à expérimenter, à faire des modèles. Et je rappelle le challenge Namazu Contest, qui permet à des établissements de France ou de l'étranger de travailler en anglais ou en français. L'anglais, c'est valable pour certaines écoles qui sont non francophones, en Espagne, en Allemagne, etc. Et aussi des classes DNL qui s'inscrivent pour que les enseignants puissent travailler en anglais des sciences. Donc là, d'ici ce week-end, demain, il y aura un épisode 3 pour cette nouvelle année scolaire. Et on fait en sorte que les activités puissent se faire aussi à la maison. Avec ce distanciel, on ne sait pas si les clubs sont toujours vivants partout. Et ça permet aussi à des enseignants de donner ce contact à des élèves passionnés d'astronomie. Et on a des élèves qui font dans leur club d'astronomie amateur des défis Namazu. Voilà. Et voilà pour mon contact, ou le contact de la cellule éducation, et les deux sites pour Insight et Mars 2020. Voilà.
Ok, merci. J'en profite tant que je te tiens pour une petite question rapide, puis après on passe la parole à Pierre, qui sera la même que celle que j'ai posée à Olga. Est-ce que tu n'as pas le sentiment, parce que moi je l'ai aussi par rapport au projet Astro à l'école et les télescopes et les lunettes qu'on a pu mettre dans les établissements, que certes au départ on devait partir sur des happy few, si tu veux, les gens passionnés, etc. Mais j'ai le sentiment qu'on est resté sur ces happy few. Toi, sur ce type d'opération, est-ce que, parce que forcément au départ, c'est des enseignants passionnés qui sont venus là, est-ce que tu as eu l'impression que ça a essaimé ou pas?
Oui, et je travaille aussi sur d'autres types de formations en dehors de l'astronomie et j'ai le même constat que toi. Après, je me pose des questions vis-à-vis des formations et vis-à-vis de comment trouver une formation au niveau du PAF. Je suis assez nouveau en France, j'ai pas mal enseigné à l'étranger avant de rentrer en France, voilà 3 ans sur l'Académie Nice. Et c'est vrai que le PAF de Nice et peut-être d'autres académies est tellement riche que c'est très difficile à trouver finalement des sujets. Et au primaire, pareil, le primaire est tellement chargé avec les maths, le français, que c'est difficile. Donc, il y a des conseillers pédagogiques sciences de certaines circonscriptions qui me permettent de faire des interventions, pas obligatoires, mais on sent que les enseignants auraient peut-être choisi d'autres choses au début et finalement, à la fin, ils sont emballés. Donc là-dessus, je me pose des questions sur le côté volontaire. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas faire des choses obligatoires dans la formation continue ou même dans la formation initiales qui permettent à des enseignants de découvrir l'astronomie et qui permettraient d'avoir des nouveaux enseignants qui s'intéresseraient à ça. Voilà.
Ok. D'accord, merci. Pierre, on te laisse la parole. Merci Guillaume.
Merci. J'avais rien vraiment préparé pour partager avec vous, donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différents partages que vous avez faits. Moi, je trouve extraordinaire de constater jusqu'à quel point plusieurs enseignants et enseignantes abordent la question de l'astronomie sous l'angle de l'observation. Parce que, comme je l'ai dit dans ma présentation de ce matin, l'astronomie est une science d'observation. On ne peut pas manipuler nos objets d'étude et donc on doit se rabattre sur ce que nous envoient les ondes électromagnétiques émises par ces astres, ou maintenant les ondes gravitationnelles, mais je pense qu'on n'en est pas encore là dans les écoles. Une chose qui me frappe, et puis jusqu'à un certain point, probablement qu'on n'a pas abordé cette question-là parce que, faute de temps, on ne pouvait pas aller vraiment dans les détails, mais c'est la question de la contextualisation de ces observations. C'est-à-dire qu'on pourrait proposer à des élèves de faire des observations de la Lune, du Soleil, des planètes, que sais-je encore, mais il me semble qu'avant d'arriver à l'observation, il faut s'assurer par une démarche de dévolution, par une démarche didactique, que les élèves s'approprient le problème et que les observations viennent répondre à un questionnement qu'ils ont. Moi, ce que je constate dans les formations et les observations que je fais en classe au Québec, c'est que trop souvent, on va présenter l'observation comme une fin en soi. C'est-à-dire qu'on va annoncer aux élèves qu'ils vont observer les phases de la Lune ou qu'ils vont observer le Soleil ou mesurer la longueur de l'ombre d'un gnomon à un moment précis de l'année. Mais ces observations-là sont souvent déconnectées du vécu des élèves ou alors déconnectées des questions vives auxquelles elles cherchent à répondre. Donc, et j'en dirai pas plus parce que je sais qu'on manque de temps, mais je pense que ce qui est très important, c'est de toujours garder en tête que oui, l'observation en astronomie est importante, mais il faut qu'elle soit contextualisée et il faut qu'elle soit rattachée d'une manière ou d'une autre à un questionnement qui vient des élèves ou qui a été suscité chez les élèves par une démarche didactique. On parle aussi d'expérience en astronomie. C'est un concept qui est particulier parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, on ne peut pas vraiment manipuler nos objets d'études. Donc, le concept de l'expérience est plutôt difficile à appliquer en astronomie. Ce que j'aime plutôt dire, moi, c'est que les observations que l'on fait en astronomie nous amènent à construire des maquettes ou des modèles et que ce sont ces maquettes ou ces modèles qui deviennent les sujets de nos expériences. Ce sont les maquettes ou les modèles qui permettent de fixer les variables, de faire des prédictions basées sur le modèle et ainsi de suite. Donc, dans l'esprit de l'astronomie comme science d'observation et science de modélisation, je pense qu'on aurait avantage à mieux déterminer qu'est-ce qu'on entend par expérience et puis de quelle manière est-ce que ça peut s'appliquer dans un contexte scolaire où les élèves, à partir d'une question de recherche, font des observations, les analysent et puis éventuellement bâtissent ou construisent ou consultent des modèles pour les aider à bien se représenter les mécanismes à l'origine des phénomènes astronomiques. Donc, je terminerai là-dessus. Et puis, ça nous laisse un peu de temps peut-être pour d'autres interventions.
Ça laisse surtout du temps à Nicolas à conclure.
Non, mais la synthèse était parfaite. Je vois qu'il y a une question de Pierre Le Fur dans le chat sur le fait qu'une observation peut être un début d'émerveillement et donc un début de questionnement et qui demande comment se questionner sur quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors, bon, je vous laisserai répondre, mais enfin, bien sûr que c'est un cycle, enfin, qu'une observation amène un questionnement qui amène peut-être à une envie d'observer autre chose. Et en fait,
je vais faire une distinction, si vous permettez, entre une observation que j'appellerais esthétique, de trouver quelque chose qui est beau, et une observation qui est dirigée par une hypothèse. Et à mon avis, ce n'est pas du tout la même chose. On peut s'émerveiller de la beauté d'un lever ou d'un coucher de soleil avec les couleurs magnifiques et tout ça, mais au-delà de ça, si on veut que cette observation-là serve à répondre à la question, par exemple, de savoir pourquoi le soleil et la lune rougissent lorsqu'ils sont près de l'horizon, bien là, il faut que l'observation soit encadrée, opérationnalisée, si vous voulez, d'une manière complètement différente de la simple esthétique. Alors oui, une observation peut être le point de départ d'un cycle de découverte en astronomie. Je reprends la nomenclature que j'ai développée ce matin, mais il faut faire une distinction entre l'observation pour le plaisir et l'observation qui est dirigée vers la réponse à une question de recherche.
Ensuite, l'observation, elle peut aussi être utile dans l'idée d'instruire une démarche expérimentale, apprendre à faire une mesure, apprendre à comparer une mesure à un modèle. Elle se tient aussi simplement dans cette optique.
Oui, mais encore une fois, il faut qu'elle soit contextualisée. Ce n'est pas une observation pour le plaisir d'observer, c'est une observation parce qu'on a une question à laquelle on cherche à trouver des réponses, voilà, exactement.
Avec un objectif.
Et puis, quand je présente le cycle de découverte en astronomie, je ne l'ai peut-être pas mentionné suffisamment clairement ce matin, mais c'est bien sûr une vision très, très naïve, entre guillemets, de la façon dont les astronomes travaillent, parce que, comme vous l'avez dit, le point d'entrée peut être très différent d'une personne à l'autre, et puis il y a toujours des allers-retours, il y a toujours des micro-décisions à l'intérieur de chaque étape. Mais comme façon de réfléchir à la production des connaissances en astronomie, ça me paraît un modèle qui, en tout cas, au départ, peut être utile.
Juste un petit commentaire. Pour revenir au sténopé, moi, souvent, dans la salle, je leur demande bon, ben, quelle est la couleur du soleil et vous, qu'est-ce qu'ils vont me répondre ? Ben, jaune, orange, rouge. Je dis bon, ok, on va dehors et on va observer le soleil, sans filtre bien sûr, donc à part projection, avec un sténopé. Donc là, à ce moment-là, ça ne trichera pas et effectivement, ben, le soleil est blanc. Et là, oui, ils vont réaliser qu'il est bien blanc. Voilà. Sauf quand ils se couchent.
Moi, je voulais faire une petite remarque sur les observations. Moi, je continue à proposer de l'observation pour le plaisir dans le cadre d'un club d'astronomie. Je trouve quand même que ça serait dommage de s'en priver. Par contre, ça, ben, je rencontre pas mal de difficultés par rapport au fait que les observations, ben, ça se fait la nuit. Donc, il faut faire venir les élèves de nuit, soit le matin très tôt, soit le soir très tard, avec toute la part de responsabilité qui va avec, hein, sur des collégiens qui ont 14-15 ans, ben, s'ils viennent tout seuls au collège à 20h et qu'ils repartent à 22h, voilà. Il y a des responsabilités, la mise en jeu qui sont assez fortes et j'arrive à le gérer sur 8-10 élèves, mais je ne me verrai pas gérer ça sur plus d'élèves parce qu'il faut aussi envisager de prévenir la famille si c'est annulé à la dernière minute pour des questions de météo, enfin voilà. L'observation, ça reste compliqué à mettre en œuvre.
Mais d'où l'intérêt, à mon sens, parce que je sais qu'on s'était posé la question, nous, à Cergy, j'avais un collègue qui voulait mettre une coupole et un télescope sur le toit de l'université pour faire venir, effectivement, des lycéens, des collégiens, mais moi, mon souci, c'était effectivement ce que vous mentionnez. Et donc, du coup, on est plutôt parti sur l'option planétarium mobile, parce que, du coup, ben, on peut aller dans les établissements, bon, avec toutes les limites qu'on a pu discuter dans d'autres ateliers, mais du coup, on touche un plus grand nombre. Et justement, l'idée était de, c'est M. Klein qui disait ça lors de la table ronde d'introduction, hein, c'était de mettre de la culture dans l'astronomie, c'est-à-dire voilà, d'offrir au plus grand nombre tous les émerveillements de l'astronomie, et puis ceux qui seraient plus intéressés, qui voudraient aller plus loin, ben, eux justement les amener sur des projets qui sont plus compliqués à mettre en œuvre. Peut-être que cette démarche est finalement celle qui est la plus pertinente.
Juste un commentaire par rapport à ça. Nous, l'expérience qu'on a, c'est que si on reste avec les élèves qui sont volontaires, ça se passe très bien. Mais on perd ces élèves qui ne sont pas volontaires parce qu'ils sont adolescents, parce qu'ils n'ont pas envie. Et c'est ces élèves qui est important d'attirer vers les sciences parce qu'ils n'iront pas si on ne le fait pas.
Oui. Mais justement, si tu le fais avec une maquette ou avec un planétarium, avec un outil plus, je dirais, plus facile à mettre en œuvre, je pense que voilà, tu peux avoir cette accroche si tu veux vis-à-vis de cela.
Je pense que pour nous, c'est pas la même chose. Hein. Quand on a fait ce qui leur plaît, c'est enfin là où ils se réveillent un peu, c'est où c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, effectivement, ce qui est exceptionnel, c'est très difficile des fois à mettre en place. Je suis d'accord. Et c'est là, c'est les enseignants qui travaillent avec nous, qui gèrent tous les côtés, sortie le soir, ouverture du collège, du lycée, etc. Mais ils arrivent à le faire. Pas tous les jours. C'est une fois par an, mais une fois par an, ils arrivent. On n'a jamais eu des problèmes avec ça. Je sais que c'est très compliqué. Mais voilà.
Bon, il est très exactement 17h30, donc on arrive à la fin de cet atelier. Vraiment, merci beaucoup à tous les participants, parce que c'est vrai que c'est incroyable toute cette richesse des pratiques, en fait. Je suis désolé pour les quelques participants qui voulaient poser des questions, qui n'ont pas pu ou je sais que c'est très frustrant, donc je m'en excuse et donc je vous invite à tous à rejoindre la session de clôture. Voilà, merci encore.
Merci
à tous.
Merci.